Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Floriane est jeune. Elle a mis longtemps à accepter notre invitation à parler de ses activités. Je l'ai rencontrée sur un marché d'artisans où elle proposait des bijoux en verre et en cuir. Et là, nous avons convenu qu'elle viendrait peut-être s'exprimer à Radio Libre en Périgord dans l'émission Tranche de vie. Mais il a fallu longtemps pour qu'elle se décide. Et enfin, le grand jour est arrivé, elle est là, et elle va nous dire ce qu'elle fait. Floriane, bonjour, merci d'avoir accepté de parler. Alors, quelles sont vos activités? Et on va commencer par les appeler artisanales.
Bonjour, donc je suis fileuse de verre au chalumeau, et je travaille le cuir, donc je fais des bijoux en verre, et en verre de Murano et en cuir, principalement.
Alors, tout de suite, on rencontre une petite difficulté. Qu'est-ce que c'est que le verre de Murano? Vous allez nous apprendre des choses. Sans regarder vos notes, attention.
Donc, le verre de Murano, donc, c'est un verre qui est fabriqué en Italie et qui est très reconnu pour sa qualité. Donc, il y a beaucoup de choix de couleurs différentes. Ce sont des couleurs très vives avec le verre de Murano. Et donc, c'est un gage de qualité surtout, avant tout.
Et alors, vous recevez votre matière première d'Italie. Elle est toute prête, elle est toute teintée.
Oui, je reçois directement mes baguettes de verre d'Italie par la poste. Et elles sont teintées dans la masse. Chaque baguette a déjà une couleur teintée. Et après, je peux les utiliser ou les mélanger pour obtenir différentes couleurs, des variantes, des effets.
Bon, alors, expliquez-nous en détail comment vous êtes arrivé à travailler cette matière qui est quand même assez particulière et quelle a été votre démarche? Est-ce que c'est une révélation que vous avez eue brusquement étant enfant ou bien est-ce que vous avez été attiré par les activités manuelles et en particulier par la verrerie d'art?
Alors, pour ce qui est du verre, parce que pour le reste, il y a eu beaucoup d'histoires différentes. Mais donc pour le verre, je suis partie à Murano, sur l'île de Murano, il y a à peu près 5 ans. Et j'ai découvert le travail du verre parce que différents artisans exposaient et faisaient de la démonstration. Et à ce moment-là, je ne me suis pas du tout dit que c'était le matériau qui allait me plaire. Et c'est un an plus tard, donc j'avais acheté des boucles d'oreilles en verre. Et un an plus tard, un jour, je me suis réveillée. Et là, il y avait un rayon de soleil qui s'est mis directement sur une de mes boucles d'oreilles. Et depuis mon lit, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ah si, je faisais du verre. Et à ce moment-là, j'ai cherché à faire des stages pour commencer à faire mes premières perles.
Avant cette révélation, est-ce que vous avez eu une formation aux arts manuels?
Alors oui, j'ai eu différentes formations dans les arts manuels. Donc j'ai commencé par la peinture quand j'étais toute petite, j'ai exposé quand j'avais 14 ans. Ensuite, je me suis tournée vers les arts appliqués. Et après les arts appliqués, je voulais être céramiste. Donc j'ai commencé une formation de céramiste que je n'ai pas terminée parce que j'ai fait une allergie à la céramique. Et puis, je me suis tournée vers la maroquinerie, donc le travail du cuir. Et entre autres, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages dans différents domaines de l'artisanat d'art parce que j'étais intéressée par l'artisanat, je voulais bosser dans l'artisanat d'art, mais je ne savais pas quoi faire exactement. Donc j'ai testé, je crois, tous les matériaux de l'artisanat d'art jusqu'à me poser sur le cuir et le verre, pour l'instant.
Alors, cette fréquentation de la céramique temporaire, un peu éphémère. Ça a été dur pour vous d'abandonner ce matériau-là? Est-ce que c'était vraiment ça qui vous plaisait?
Alors en vérité, ça n'a pas été dur du tout parce que je pensais vouloir être potière, mais je n'avais jamais vraiment essayé. Donc je pense qu'au fond, ça ne me plaisait pas tant que ça et que j'avais besoin de tester d'autres matériaux avant de me poser vraiment dans un domaine en particulier. Besoin d'expérimenter avant de savoir ce que je voulais.
Et alors, la peinture ou la gravure ou le dessin, je sais pas, vous n'avez pas donné de précision là-dessus. Qu'est-ce que vous peignez ou vous dessinez
Alors j'ai commencé par le fusain et l'acrylique et je peins, je peignis, bon, je peins un petit peu encore, beaucoup beaucoup de visages du monde entier. Et maintenant en particulier, je peins beaucoup avec des encres aquarellables, du brou de noix et des encres de Chine sur des toiles de lin. Des toiles de lin qui n'ont pas été enduites, c'est-à-dire qu'elles sont sous forme de tissu, de très grand format et des visages de très grand format, car les visages me passionnent.
Donc du grand format avec des matériaux inhabituels sur de la toile de lin écrue. C'est bien ça?
C'est exactement ça.
Très bien. Alors maintenant, essayez de nous dire un petit peu, alors comment vous en êtes venu au cuir qui est complémentaire de votre activité sur le verre?
Alors, comment j'en suis venue au cuir? C'est que j'étais passionnée, enfin je suis passionnée de l'époque médiévale. Et de tout ce qui est donc maroquinerie médiévale et sculpture sur cuir. Parce qu'en fait, je travaille la technique du repoussage en plus de faire des bijoux en cuir. C'est-à-dire que je sculpte.
Évidemment, on retrouve l'Italie là.
Il doit y avoir des attirances inconscientes pour ce pays. Donc en fait, je suis allée voir un maître artisan qui travaille, Eric Deneken, qui travaille la technique du repoussage. Et il m'a formée en fait, à la sculpture sur cuir avant même de la maroquinerie. Voilà.
Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, définir ce que c'est que la sculpture sur cuir?
Alors en fait, on part d'une peau de cuir de tannage végétal, c'est-à-dire qu'on a utilisé des tanins végétaux pour le faire. Et ensuite, je viens inciser le cuir avec ce qu'on appelle un couteau à ouvrir. Et avec d'autres petits instruments de torture, je viens frapper la partie incisée en fait. Je viens repousser le cuir pour qu'il soit en relief, pour qu'apparaisse le relief en fait après.
Sur l'autre, sur l'arrière ou sur l'avant? Sur la partie incisée?
Non, en fait, c'est difficile à expliquer, il faudrait des images. Non, en fait, je viens inciser deux petites parties du cuir et en repoussant cette incision, en fait, on va avoir le relief qui apparaît, ouais, voilà, tout simplement. On appelle ça aussi, quand je dis sculpture sur cuir, c'est pour que ça nous parle un peu plus, mais il n'y a pas du tout de sculpture parce qu'on n'enlève pas de matière. On ne fait que repousser la matière pour qu'apparaisse le relief.
D'accord, c'est sûr, on emploie l'expression de cuir repoussé. Hein.
Oui, 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 exactement.
Alors, qu'est-ce que vous faites en cuir repoussé? Aussi des visages grand format?
Alors, c'est assez compliqué comme technique, donc je ne fais pas encore de portrait, on se viendra peut-être un jour. Mais je fais beaucoup de motifs celtiques, parce que je suis passionnée de tout ce qui est celte, médiéval, etc. Du coup, beaucoup de motifs celtiques d'entrelacs, et des motifs végétaux, des petites feuilles. Je fais des pendentifs en forme de feuilles, et puis je fais des ceintures, et des ceintures en cuir repoussé, et souvent sur commande, parce que les gens me demandent de dessiner un motif, ou bien me dessinent eux-mêmes un motif pour que je vienne le repousser sur le cuir.
D'accord. Et alors, cette attirance pour les motifs médiévaux et pour aussi, ça je l'ai bien noté, pour tout ce qui concerne les motifs naturels, est-ce que ça correspond à un goût particulier ou à une préoccupation particulière?
Je pense que la légende médiévale et celte me fait rêver. Donc, la féerie, tout ce qui est elfique. Les mondes imaginaires et fantastiques me font rêver, donc je retranscris un peu mon monde idyllique à travers ces motifs.
Pour vous endormir, vous lisez La Quête du Graal, les romans du roi Arthur.
Voilà, je m'endors sur du Tolkien.
Ah, quand même, oui, ça a remanié quand même au goût du jour. D'accord. Et alors, bon. Ça, je veux dire, est-ce que vous arrivez à trouver suffisamment, vous dites que des clients vous proposent des motifs, mais autrement, où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Vous avez un appareil documentaire favori
Alors, j'ai une très bonne copine espagnole qui a vécu en Suède et qui m'a invitée un jour en Suède et qui m'a offert un livre de motifs celtes qui ont été retrouvés justement en Suède, des motifs celtes et vikings. Et du coup, je m'en inspire beaucoup pour mes motifs et sinon.
Sinon, voilà, vous trouvez à l'occasion la proximité de la nature, la recherche de motifs naturels,
Exactement.
Ça correspond à une préoccupation aussi.
Mais bien sûr,
oui.
C'est partie d'une de mes passions mixtes, d'une de mes multiples passions, la nature, et toutes les inspirations qu'on peut avoir dans la nature, oui.
Voilà, vous participez aux inquiétudes actuelles sur l'avenir du monde naturel?
Quelle question. Évidemment, oui, c'est primordial, je pense.
Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment... alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez artiste ou artisane d'art, mais que vous aviez d'autres activités. Alors, cette activité d'artisanat d'art que vous exercez, on peut dire presque à la campagne, est-ce qu'elle vous permet de vivre? Ou est-ce qu'elle vous suffit pour remplir vos journées? Ou est-ce que vous avez d'autres activités?
Alors, elle pourrait me permettre de vivre et elle pourrait me remplir toutes mes journées, mais par envie et par besoin de ne pas être toujours dans mon atelier seul, derrière mon chalumeau ou devant ma peau de cuir, j'ai aussi d'autres métiers pour compléter aussi voilà, les fins de mois. Et donc, je suis surveillante en internat à mi-temps et je donne quelques cours d'espagnol aussi en plus. Et j'ai pour projet de aussi peut-être donner des cours de peinture si j'arrive à me trouver des semaines de plus de 8 jours. Voilà.
Pour ouvrir un... Pour... Ah, oui, alors déjà, on en conclut que votre art et votre artisanat, plus les autres activités que vous venez d'évoquer, remplissent déjà bien, bien votre emploi du temps. Pourquoi l'espagnol et comment?
L'espagnol, c'est un amour de toute une vie. Donc, je suis passionnée d'espagnol depuis que j'ai commencé à pratiquer cette langue, depuis le collège. Et j'ai eu envie de développer cette passion-là. Donc, je suis partie en fac d'espagnol. J'ai fait des études en espagnol. Et j'ai passé...
En France ?
Oui, je suis partie vivre en Espagne aussi. Oui, j'ai fait une année d'études en Espagne.
Et... À quel endroit ?
À Saragosse.
Oui.
Saragossa. Et puis voilà, j'ai un master en espagnol en plus du reste, parce que j'ai fait mes activités manuelles en parallèle de la fac, parce que la fac c'est un endroit super pour exercer d'autres activités à côté, parce qu'on a beaucoup de temps.
Est-ce qu'en Espagne vous avez trouvé de l'inspiration et, ou alors est-ce que vous avez appris certaines techniques que vous pratiquez maintenant?
Et oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, en Espagne, j'ai rencontré un maroquinier qui donnait 2 heures de cours de maroquinerie par semaine. Et donc, avec une très bonne amie là-bas, nous avons toutes les deux pris des cours de maroquinerie. Donc finalement, c'est aussi en partie en Espagne que j'ai appris le travail du cuir, alors que j'étais partie pour faire ma 3e année de licence d'espagnol en Erasmus. Voilà, j'ai réussi à...
Enfin, bon, comme on dit, l'un n'empêche pas le bas, c'est-à-dire que vous avez profité de l'occasion pour compléter votre arsenal de connaissances. Et cet espagnol, vous l'enseignez à quel niveau?
Donc, je l'enseigne à l'IUT, mais au personnel de l'IUT, entre midi et deux. Donc, pour des personnes débutantes et aussi pour des personnes confirmées, j'ai 2 niveaux. Voire 3, il y a aussi entre les débutants et confirmés.
Mais alors, si je peux me permettre, pourquoi le personnel de l'IUT et dans quel cadre? Parce que le personnel de l'IUT, ils vont tous en vacances en Espagne ou bien ils veulent se spécialiser en espagnol?
Et bien, le personnel de l'IUT a des envies aussi d'apprendre de nouvelles choses. Ils ont droit à des activités entre midi et deux et l'espagnol fait partie des choix.
Sur leur temps libre?
Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent apprendre une langue, il y en a qui prennent des cours d'anglais... Et l'espagnol aussi.
Ah, très bien, très bien. Bon, alors, l'espagnol, et puis, comment vous appelez ça, surveillante, oui c'est ça, surveillante.
Surveillante en internat.
En internat, surveillante d'internat. En lycée, en collège?
En lycée, je travaille à Claveil. Donc j'étais moi-même au lycée Albert Claveil en art appliqué, et là je surveille entre autres des arts appliqués aussi, des terminales arts appliqués.
Vous avez noté, chers auditeurs, comment Floriane nous révèle, comme ça, par petites touches, les étapes de son passé professionnel. On vient d'apprendre qu'elle avait fait les arts appliqués à Claveil, par exemple. Et donc, ça a dû être quand même important. Est-ce que je me trompe?
Mais non, je me sens comme à la maison quand je suis au travail. Je suis habituée, voilà, c'est que du plaisir.
Est-ce que y a des contraintes particulières pour être surveillant d'internat dans un lycée comme Claveil, qui est un très beau lycée, hein, je rappelle aux auditeurs?
Alors, les contraintes principales, l'alarme incendie à 3h du matin, parce que le lendemain, pour travailler dans son atelier, quand il a fallu faire sortir tout le monde du bâtiment, parce qu'il y a une alarme incendie, on est beaucoup moins concentré sur le chalumeau.
Oui. Ça ne doit pas arriver quand même tous les jours, hein.
Détrompez-vous, ça arrive beaucoup trop souvent. Non, mais sinon, non, il y a vraiment peu de contraintes. Pour moi, c'est que du plaisir.
Et les gens dont vous avez la charge, vous avez la charge de garder, savent que vous êtes une ancienne de Claveil?
Ah oui, ils sont au courant. Je leur donne des petits cours particuliers des fois où je réponds à leurs questions. Après, je n'aime pas le mot surveillante parce qu'en soi, je ne les surveille pas vraiment. Enfin, elles n'ont pas besoin vraiment d'être surveillées, mais plus je les soutiens plus qu'autre chose et je suis là si elles ont besoin d'aide.
Vous parlez au féminin, vous avez uniquement des filles alors?
Oui, je travaille sur les avec
donc,
les.
Vous pourrez trouver un autre mot que surveillante, bergère ou.
Je suis en soutien.
Oui, non, mais effectivement, je pense que vous faites un travail très utile. L'espagnol, vous allez continuer, c'est une, apparemment, d'après ce que vous avez dit, c'est quand même une passion durable. Vous pouvez nous donner un petit aperçu quand même de vos goûts en espagnol? Vous avez quel goût dans le domaine de la littérature espagnole ou dans le domaine de l'art espagnol?
Je ne l'ai pas écrit sur mes notes.
Non, mais comme ça, pour point, donnez un titre, un auteur, un peintre.
Attendez, j'en ai plein, hein, mais il faut que... Bon, Dali, forcément. Et puis...
Dali, c'est intéressant, ça.
Très intéressant, le surréalisme. Ouais. Et j'aime énormément le cliché, hein, El Quijote, Don Quichotte. J'ai passé le CAPES d'espagnol sur Don Quichotte à l'écrit. D'accord. Et j'ai eu les écrits. Bon, pas les oraux, mais j'ai eu les écrits grâce à lui.
Mais pas les nouvelles exemplaires? Si vous ne les avez pas croisés, essayez de les croiser.
Mais si, en plus, je les ai lus, mais je ne me rappelle plus du tout. Je remémoire. Si, je les ai lus en plus pour le concours.
Alors, maintenant, si vous voulez, on va revenir à votre activité d'artisan. Alors, bon, ça... L'art et l'artisanat, c'est-à-dire la peinture, le cuir, le verre, hein, ça vous prend quelle partie en dixième ou en centième de temps de votre semaine? La moitié, les deux tiers?
J'aurais dit plus de la moitié, oui, parce que je suis à mi-temps à Claveil. Les cours d'espagnol, ça me prend beaucoup de temps aussi pour la préparation. Et puis un peu plus de la moitié de la semaine, je dirais. Et j'aimerais que ce soit plus, mais c'est vrai que les semaines ne font que 7 jours, je crois, encore. Cette année, il n'y a que 7 jours dans une semaine, donc... Ouais.
Bon, vous avez dit que vous n'aviez pas de mémoire, mais il ne faut peut-être pas exagérer, quand même. Est-ce que les activités artistiques et artisanales, vous les exercez dans un atelier qui est à vous, ou que vous louez, ou un local particulier, parce que... ça présente quelles contraintes, le travail du verre?
Alors, pour répondre à la première question, pour commencer, donc je travaille chez moi, dans mon atelier, dans mes ateliers, parce que j'ai la chance d'avoir deux ateliers. J'ai mon atelier de filage de verre et mon atelier de cuir, en fait. Et là où j'assemble aussi les perles de verre. Et j'ai oublié la deuxième question, du coup.
La deuxième question, c'était sur l'atelier. Voilà, est-ce que
ah oui,
vous avez un atelier
oui.
Oui, et puis les contraintes du verre. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un atelier de filage de verre? Qu'est-ce qu'il faut?
Alors finalement, il ne faut pas tant de choses que ça. Dans un atelier de filage de verre, il faut un chalumeau, un concentrateur à oxygène et une bouteille de propane pour alimenter le chalumeau, parce qu'il va chauffer à plus de 1200 degrés pour pouvoir faire fondre le verre. Et il me faut un four qui va chauffer à 500 degrés, qui est la température de solidification du verre et dans lequel je vais mettre mes perles pour éviter le choc thermique, puisqu'il va redescendre petit à petit par palier à température ambiante, voilà, pour éviter justement
d'accord,
les différences
là,
de température.
Ça c'est important, là on rentre dans le dur. Si vous laissez vos perles de verre, une fois que vous les avez formées, à l'air libre, sans y toucher, elles se cassent, qu'est-ce qui leur arrive ?
Elles vont se casser en deux, et à ce moment-là, je peux faire des bagues ou des boucles d'oreilles, des petites puces d'oreilles, mais l'objectif quand même, c'est d'avoir une perle ronde. D'accord. Donc j'évite de les laisser à l'air libre.
Alors, une question vraiment idiote, la perle, vous la percez à quel moment ?
Hey, c'est là tout l'intérêt de voir faire, parce que, en fait, le principe du filage de verre, c'est de faire fondre une baguette de verre autour de ce que l'on appelle un mandrin, c'est une tige en acier. Et le fait de faire fondre, d'enrouler la baguette de verre autour du mandrin va permettre de, petit à petit de former une perle en tournant le mandrin. Et en fait,
il est déterminé par la présence du mandrin.
Vous avez tout compris. Et le diamètre du mandrin va donc déterminer le diamètre du trou de la perle.
D'accord. Vous faites des grosses perles ?
Non, moi j'aime bien tout ce qui est tout petit, parce que déjà je suis toute petite, alors j'ai fait tout en proportion de moi, et j'aime bien faire des toutes petites perles et des tout petits bijoux.
D'accord. Oui, c'est ce qui m'avait semblé. Un intérêt particulier pour les perles, en particulier pour toutes les perles anciennes en verre venues d'Italie et qui ont inondé en particulier le continent africain. À partir du moment où les Européens ont commercé avec ce continent. Vous voyez ce que je veux dire, sans doute.
Oui, bien sûr. Très grand intérêt.
Oui. Vous êtes collectionneuse, vous recherchez ces perles anciennes ?
Mais pas du tout.
Non.
Non, moi j'aime bien l'innovation, la création, et je ne vais pas chercher à droite, à gauche. Mais je pense que c'est surtout par manque de temps, parce que ça m'intéresserait énormément d'aller faire des musées, de voyager, d'aller découvrir les perles du monde entier. Quand les semaines feront là, à ce moment-là, 13 jours chacune, là je pense que je prendrai ce temps-là. Mais pour l'instant, j'innove un peu, je me forme moi-même, parce que j'en suis encore qu'au tout début du filage de verre. Donc j'apprends un peu à travailler.
Il faut combien de temps pour être une fileuse de verre confirmée ? Votre modestie vous honore, mais on a l'impression, moi je pensais qu'avoir affaire à une professionnelle et vous vous présentez comme un amateur.
Alors je dirais qu'il faut toute une vie pour devenir confirmée dans quelque chose. On n'a jamais fini d'évoluer. Donc moi je suis sûrement confirmée pour d'autres personnes, mais moi je pense je ne suis encore qu'un bébé fileur de verre, ouais, et j'ai tout à apprendre.
Vous revenez quelquefois à Murano pour regarder les gens travailler, apprendre des choses, apprendre des tours de main.
Alors je dirais que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Murano, parce que j'ai une énorme chance, c'est celle de vivre en Dordogne, qui est un département plein d'artisans aux multiples talents. Et à côté de chez moi, à Chancelade, il y a une fileuse de verre très expérimentée. Elle, pour moi, c'est une fileuse de verre qui est très confirmée et qui m'apprend beaucoup et qui me montre beaucoup de techniques très, très, très belles, qui s'appelle Evelyne Agar. Et voilà, donc j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à Murano et de faire seulement 10 km pour aller voir en direct une bonne fileuse de verre. Après, j'ai d'autres références en Dordogne. Je vais voir au Bug les souffleurs et fileurs de verre du Bug. Donc, Sylvie Duroche et Ludovic Guittet, qui sont des têtes dans le travail du verre, et qui m'inspirent beaucoup aussi.
Ces gens-là, que vous présentez, encore une fois, avec beaucoup de modestie, comme des gens très confirmés, ils vous aident, vous constituez une espèce de confrérie occulte du verre.
Mais je pense que je leur dois énormément, oui. Ils m'ont beaucoup, beaucoup apporté, et m'apportent beaucoup. Parce que déjà, le four, je travaille avec leur four, avec leur chalumeau, donc ils m'ont gentiment prêté.
Ouais.
Et puis, si j'ai besoin d'aide, ils sont là. Donc, ouais, il y a un bon sens du partage.
Donc, c'est une espèce de tuteur, alors,
Ah
pour
oui,
vous.
j'ai beaucoup de chance d'avoir des tuteurs qui sont là si besoin. Evelyne, si j'ai besoin d'aller voir une nouvelle technique, ou vu que j'ai très peu de mémoire, j'ai souvent oublié une technique d'une année sur l'autre. Donc hop, je vais la revoir, elle me la remontre, et puis c'est reparti pour une année.
Alors, en quelques mots, toutes vos productions, vous avez parlé des expositions de peinture que vous faisiez, je ne sais pas si vous en faites encore, vos productions artisanales, vous les montrez où?
Alors, je fais beaucoup de marchés, donc je fais les saisons, sur les marchés d'art l'été, les salons d'art aussi, donc en Dordogne, j'essaye de rester en Dordogne, surtout parce qu'il se passe beaucoup d'événements en Dordogne. Je fais beaucoup de médiéval, des marchés médiévaux, des fêtes des vieux métiers, donc j'étais par exemple à la Félibrée au mois de juillet, et sinon le reste de l'année, les saisons de Noël, donc là je vais dans les petits villages, dans les salles des fêtes, où j'expose mon travail. Je peux exposer aussi dans divers lieux publics ou privés. Par exemple, j'ai exposé dans des lycées, des établissements.
Surtout en Dordogne.
Voilà, surtout en Dordogne. J'essaye de rester en Dordogne principalement.
Vous êtes originaire de Dordogne?
Oui, je suis de Périgueux.
Oui.
Je m'étais toujours dit que je ne reviendrais jamais vivre à Périgueux, mais on est parfois rattrapé par Séraphine.
Oui, enfin ça, bon, vous êtes quand même de la Dordogne, hein, donc où que vous soyez.
Oui, je suis une locale.
Alors, le temps file à toute
Oh,
allure
c'est fou.
quand on parle avec Floriane, qui voudrait avoir des semaines qui durent 13 jours. Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres passions que celles dont vous avez si bien parlé?
Et oui,
Vous êtes sportive, vous êtes...
Oh, une très grande sportive. Non, je fais de la danse folk, qu'on appelle aussi danse trad. Du néo-trad, donc qui me passionne
Oulala,
énormément.
alors attendez, il faut traduire. Hein.
Non, parce qu'en fait, quand on pense à la danse trad, on pense aux musettes ou aux danses de vieux, mais elles ont été renouvelées, elles ont été remises au goût du jour par des jeunes, par des gens passionnés, des jeunes et des moins jeunes. Hein. Et maintenant, il y a tout public qui fait de la danse trad, donc on se retrouve avec des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, et on danse tous ensemble les
Voilà.
samedis soirs.
C'est l'équivalent du Lindy Hop pour le rock.
Oui, voilà, c'est ça. Dans un autre domaine, il y a un très bel esprit de très belle convivialité, un esprit de famille. C'est source, un lieu de partage. Les bals trad, je vous conseille à tous de tester.
Très bien, mais on enregistre alors, quand vous êtes bien ankylosé, bien chauffé à faire fondre le verre et à le former, et que vous avez bien appuyé sur vos outils de formation, de repoussage du cuir, et bien vous allez vous détendre les jambes au baltrade.
Voilà,
D'autres
exactement.
passions?
Et ben, oh oui, mais oui, là j'en ai pour un moment si je les donne toutes. Oui, je suis passionnée de randonnée, de théâtre, de musique, entre autres.
Bon, tout ça reste dans le domaine artistique et on a bien compris où étaient vos préoccupations à travers tout ce que vous nous avez raconté sur votre activité multiforme, débordante. Merci beaucoup, Floriane, et bonne continuation.
Merci beaucoup à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.